Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Mes parents avaient prévu un avenir assez tracé. Enfin, ils voulaient que je passe mon bac, que je fasse une école de commerce ou que je fasse du droit. Et moi, je me sentais pas trop, en fait, d'aller dans ces chemins tout tracés, mais j'arrivais pas non plus à dire vraiment ce que je voulais. La petite Camille avait peur, elle se posait plein de questions. Et moi, si je pouvais lui dire quelque chose, ouais, je murmurais quelque chose à l'oreille, c'est je lui dirais « Fonce, n'aie pas peur, crois en toi, écoute-toi, fais-toi confiance, profite de la vie, profite de chaque moment. » Parce que ça n'existe qu'une fois et Camille, quand tu tombes, ramasse quelque chose.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Camille est une mannequin française, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour dire. J'ai découvert Camille sur Instagram. Mon intuition m'a dit qu'elle avait des choses passionnantes à nous raconter. Mais avant de l'inviter, j'ai fait des petites recherches sur elle. Et quand j'ai vu que sur le site de l'agence pour laquelle elle travaille, il la présente comme une personne qui croit aux rêves, pour qui rien n'est impossible quand on enlève ses barrières, il était évident que j'avais envie de la voir derrière mon micro. Et vous verrez, mon intuition ne m'a pas trompée. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi et à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Revenons-en à Camille. Elle a grandi dans la banlieue chic de Lyon. Pour faire plaisir à ses parents, elle s'est inscrite en fac de droit. Mais sans trop y croire, Camille a écouté sa petite voix et a saisi l'opportunité de devenir mannequin à 18 ans. Elle a aujourd'hui 30 ans, sa carrière bat son plein, c'est une jeune maman et elle a repris ses études il y a 5 ans dans la photographie, l'histoire de l'art et le théâtre. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Camille Desbeaux. Bonjour Camille.
Bonjour Charlotte.
Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît ?
Alors moi, j'ai choisi un appareil photo. C'est l'image que je t'ai envoyée. C'est mon appareil photo. Il m'a été offert par mes parents quand j'ai commencé mes études de photographie. Et pourquoi j'ai choisi cet objet ? Parce que déjà, c'est mon outil de travail. Je suis mannequin, donc je passe pas mal de mon temps derrière l'objectif. Et puis parce que j'adore, c'est un objet qui m'a énormément interpellée et j'ai eu envie de le comprendre, de pouvoir l'apprivoiser. Et depuis, j'adore faire des photos. J'adore capturer tous ces instants et voilà.
Et depuis quand, du coup, t'as fait des études de photographie ?
Alors, j'ai repris mes études de photographie quand j'avais 25 ans, donc ça va faire 5 ans.
D'accord.
Le temps passe vite.
Ouais, c'est sûr. On en reparlera un peu après. Avant, est-ce que tu peux nous raconter là où tu es née, où est-ce que tu as grandi ?
Alors, je suis née dans la Drôme et j'ai grandi à Lyon. Mes parents sont lyonnais.
Où ça, dans la Drôme ?
À Bourg-de-Péage, à côté de Romain.
Ok, ouais, très bien. J'ai interviewé Géraldine Decaux qui vient de Romans aussi et d'ailleurs j'ai une petite pensée pour elle parce que j'habite à Marseille et on est rentré pour les vacances dans le nord, à savoir au-dessus d'Avignon et on est passé à côté de Romans et j'ai une petite pensée pour elle parce qu'en plus il y a la pogne, enfin il y a des bonnes spécialités culinaires là-bas.
Oui, la pogne c'est délicieux et puis après, quand tu montes un peu plus haut, que tu passes par Lyon, il y a le Saint-Genis, plein de brioches à la praline.
C'est ça, exactement. C'était la petite minute culinaire. Voilà. Et donc, du coup, après, vous êtes partie vous installer à Lyon.
Alors non, moi j'ai en fait je suis née dans la Drôme parce que ma maman vient de la Drôme, mais depuis le départ on vivait à Lyon. Donc j'ai grandi dans une petite maison dans la banlieue de Lyon, à Caluire-et-Cuire exactement, à côté de Lyon. Et voilà, c'était super.
Et t'étais quoi comme type de titille?
Alors j'étais une petite fille assez, je pense que j'étais plutôt en contradiction. Je pense que j'étais une petite fille très solaire, donc très lumineuse dans j'avais pour ambition, je me suis rapidement mis comme devoir de faire rire mon entourage. J'essayais d'être souvent oui souriante, de faire rire, et à côté de ça, enfin j'étais très heureuse, je m'amusais beaucoup, je faisais beaucoup de bêtises, mais à côté de ça, j'avais aussi beaucoup d'angoisse. J'ai toujours eu très peur du noir, très peur de dormir. J'associais le fait de dormir à la mort.
Ah, c'est fou,
De fermer les yeux, ça m'angoissait. Donc, il m'arrivait de ne pas dormir, de passer des nuits entières sans dormir en attendant que le jour se lève et en embêtant mes parents. Mais ouais, non, j'étais, je pense, plutôt dans la contradiction par rapport à mon enfance. Et après, j'ai mis du temps à comprendre tout ça, mais on transporte tous des bagages ancestraux, et il a fallu que je m'en détache pour commencer à me séparer et à laisser ces angoisses de côté, en fait, et les remettre à leur place.
Du coup, qu'est-ce que tu as utilisé comme type de technique pour pouvoir justement te détacher de tout ça?
Alors déjà, il a fallu que j'en prenne conscience, et j'ai eu la chance, c'est ma maman qui m'avait donné le contact d'une psy à Paris, et elle était vraiment, mais alors, géniale, tournée vers le domaine artistique, et elle m'a, alors, pas soigné mes insomnies, en tout cas, je les ai acceptées. Et j'ai accepté aussi enfin j'ai compris pas mal de choses par rapport à ma famille, à mon enfance, et le fait de comprendre, bah ça a pu vraiment, ouais, c'était un travail sur le long terme et qui m'a pu me permettre de poser tout ça et de pouvoir m'en libérer.
Ouais, j'imagine que enfin quand tu as dû comprendre le fait que dormir est égal à mourir dans ton inconscient, ça devait être violent quand même.
C'était hyper violent, et surtout que j'avais du mal à mettre des mots sur mes mots, à comprendre que c'était vraiment ça dont j'avais peur. Et puis après, il y a un truc qui m'a aussi vraiment rassurée, mais alors j'étais petite, ma grand-mère était complètement fan, adorait une chanteuse, enfin, grande chanteuse qui s'appelle Barbara. Et Barbara, elle a une de ses chansons, un titre qui s'appelle Les Insomnies. Et en fait, elle explique exactement la même chose. Et en fait, de me dire que il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi, et ben ça m'a soulagée, parce que je me suis dit que je n'étais pas toute seule. Il y avait d'autres personnes qui pensaient qu'il y avait aussi les mêmes angoisses, les mêmes peurs parfois. Et du coup, ben, on relativise. On se dit que.
Mais c'est marrant ce que tu disais, enfin marrant, je sais pas si c'est le mot, mais le poids transgénérationnel, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert l'été dernier où j'ai rencontré des magnétiseurs et autres types de personnes un peu perchées pour certaines personnes et ce que je respecte.
Et pourquoi
Mais,
le ancrer pour d'autres?
ouais, c'est ça. Et en fait, il y a des choses où tu te dis, enfin, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est tellement fort et fou ce qu'ils racontent. Et du coup, je me suis pris de curiosité pour ces sujets-là. Et donc, j'ai lu pas mal de choses. Et en effet, il y a des choses où on te dit, voilà, t'as le poids de l'hérédité sur des choses et tu, enfin, c'est ancré en toi, mais tu le sais pas parce qu'en fait, ça ne t'est pas arrivé à toi, en fait.
Et non. Et depuis ton enfance, et même le moment où tu choisis de naître, tout ce que tu vas vivre dans le ventre de ta maman, tout ça, ce sont des choses que tu as à vivre, que tu as à comprendre pour t'en libérer, pour soigner aussi les générations futures, et puis pour soigner les générations passées aussi, enfin, pour soigner tout un ensemble. Et c'est, en fait, c'est passionnant. Moi aussi, c'est un peu comme toi. J'ai découvert tout ça, il y a une dizaine d'années, et ça me passionne. C'est vraiment un sujet, que je trouve passionnant. Donc, ma
Ouais,
propre
c'est fou,
enfance,
ouais.
Ouais, t'apprends sans cesse. Après, c'est ce qu'on disait avec mon mari, c'est qu'il me disait, tu vas voir telle personne, il me dit, bon, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter aussi, parce que sinon, tu rentres dans une espèce de spirale de toujours aller creuser, mais d'arriver à trouver certaines réponses à des choses que tu imaginais même pas et qui t'expliquent un certain nombre de choses dans ta vie, c'est assez puissant, quoi.
Ouais. Et puis, parfois aussi, on rencontre des personnes qui tu parlais de magnétiseurs, mais t'as des magnétiseurs,
ouais,
qui soignent aussi vraiment les douleurs physiques,
bien sûr, ouais.
Et ça, c'est un fait, et on peut pas le nier, parce qu'alors encore on pourrait penser que oui, les douleurs de l'intérieur, peut-être qu'il y a un phénomène ou un phénomène de hasard, même si je ne crois,
ouais,
pas au hasard, mais on pourrait se dire
c'est beau, ouais.
Voilà, exactement. Mais en tout cas, les douleurs physiques, ceux qui arrivent à enlever le feu aussi, c'est un fait, c'est comme ça. Alors après, oui, c'est sûr, faut pas non plus être que, il faut aussi avoir les pieds sur terre, mais ce qui n'empêche pas, tout en ayant les pieds sur terre, d'avoir la tête en l'air.
J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ta tête à toi, elle était où, du coup, quand tu étais une petite fille, tu te disais, quand je serai grande, qu'est-ce que je ferais?
Alors moi, quand j'étais petite, je rêvais, on en revient à la même chose, hein, j'ai toujours été attirée par la lumière, et je rêvais de lumière. Je savais pas trop, mais j'adorais être sur scène, j'adorais mettre la lumière sur moi, ou la mettre sur... enfin, la diriger et faire des jeux d'ombre. Enfin, c'était vraiment... J'adorais la lumière. Je me voyais... je me serais bien vue actrice, je crois.
Ouais.
Je me voyais... Je me voyais dans la lumière. Après, j'ai eu énormément envie de voyager. Je me voyais aussi travailler dans l'humanitaire. Mais ça, c'était plus quand j'avais 15 ans. Je me voyais voyager, travailler dans l'humanitaire. Et je l'ai fait. J'ai eu l'occasion... J'ai eu la chance de pouvoir faire un voyage humanitaire c'était une professeure, un prof de danse qui avait organisé ça, et on était parti au Mozambique, et là aussi ça a été une claque énorme, terrible dans la figure, où c'est à ce moment-là où je me suis dit, parce que mes parents avaient prévu un avenir assez tracé, enfin ils voulaient que je passe mon bac, que je fasse une école de commerce, ou que je fasse du droit, mon papa c'était du droit, et moi je me sentais pas trop, en fait, d'aller dans ces chemins tout tracés, mais j'arrivais pas non plus à dire vraiment ce que je voulais. Et ce voyage humanitaire, j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien, qui donnaient tout, qui souriaient alors qu'ils n'avaient rien. J'ai compris, en fait, que peut-être que nous, on comprenait pas vraiment le sens de la vie. Enfin, tout, nous, je parle en tout cas de moi, et peut-être de nous... occidentaux, dans nos pays, dans nos maisons où on est bien, on se rendait pas compte de la chance qu'on a, et en fait on a toutes les clés pour prendre des risques, toutes les possibilités, et on le fait pas. Et du coup je m'étais dit, en fait il faut que je fonce, et que j'ai la chance de pouvoir le faire, et il faut que je le fasse, parce que moi j'ai la chance de pouvoir le faire, il faut que je le fasse pour eux aussi. Pour tous
et du coup à ce moment là tu disais ça serait quoi? T'avais une idée de...
Eh ben, je m'étais dit, j'avais toujours on m'avait pas mal parlé de Miss France, des trucs comme ça qui me plaisaient pas du tout, et que j'avais pas du tout envie de faire. Par contre, je m'étais dit, j'ai vraiment envie d'essayer de voir, de découvrir ces métiers qui sont plus liés à l'artistique, et qui pour moi me semblaient inaccessibles. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais foncer et je vais essayer.
Ouais.
Et puis après, j'ai un peu mis ça de côté, puis finalement, c'est revenu à moi par hasard, une fois de plus, ou par chance. Mais le hasard n'existe pas, donc, quelque part, je pense que je l'ai provoqué, tout ça.
Comment ça s'est passé, du coup?
Et ben, ça s'est passé que, du coup, mon papa m'avait inscrit dans une fac de droit. J'ai tenu 3 semaines, un peu plus, et j'ai lâché. Je lui dis, écoute, moi je vais faire des études de communication, et je vais payer mes études de communication en travaillant en tant qu'hôtesse. Donc ça le faisait rire. Lui, pour lui, la communication c'était nul. C'était soit on fait du commerce, soit on fait du droit, mais on fait pas de com.
Parce que lui, il fait quoi comme métier?
Alors lui, maintenant il est à la retraite, mais il a travaillé en tant que directeur commercial. Il était dans le commerce aussi.
D'accord. Et ta maman?
Et alors ma maman, elle est plus, elle travaille, elle aide des enfants en difficulté. Elle est plus dans le social. plus tourné vers, enfin, papa aussi, mais en tout cas, dans leur profession, ils sont plus dirigés, ils ont pris des chemins un peu différents.
Ouais.
Mais du coup, voilà, et quand je travaille en tant qu'hôtesse, et on m'a proposé de travailler en tant que mannequin, et puis je me suis dit que j'allais payer mes études assez rapidement. Et en fait, bah, du coup, je me suis prise au jeu, hein, ça m'a plu, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une très grande et belle agence qui s'appelle IMG. Et à partir de là, bah, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance aussi de travailler à New York. Et du coup, bah, j'ai enchaîné. J'ai laissé un peu mes études de côté pendant quelques temps avant de les reprendre.
Ouais. Et donc là, quand tu as arrêté tes études de communication, parce que même si c'était pas ce que ton papa imaginait pour toi, comment ils l'ont vécu?
Pas très bien. Ils ont eu très peur pour moi. Et puis, c'était pas du tout ce qu'ils souhaitaient. Ils avaient peur, déjà ils connaissaient pas le milieu. On a beaucoup d'idées reçues qui sont pas forcément fausses, hein. Mais en tout cas on a beaucoup d'idées et puis on a peur pour son enfant parce que ils avaient peur que je tourne mal.
Tu avais quel âge à cette époque-là?
Ben, j'avais 18 ans.
Ouais.
Ouais, c'est jeune en fait, hein, quand 18-19 ans. C'est jeune quand on y pense. Mais en fait, la chance que j'ai eue, parce que j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes, beaucoup de destins brisés, beaucoup ouais. de personnes se perdre, et j'ai finalement, c'est presque de l'humanitaire, le père du mannequinat, parce que on voit tout, enfin, c'est pas de l'humanitaire, pas du tout, c'est pas le terme, mais en tout cas, c'est l'école de la vie. On découvre que il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de gens qui sont perdus en fait, tout simplement.
De solitude, ouais.
De solitude, ouais. Et c'est vrai que bah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire.
tu me disais que c'était une vraie école de la vie, le mannequinat.
Oui.
Et que tes parents avaient peur.
Voilà. Et du coup, ils avaient peur et ils avaient peur que je me perde. Et en fait, grâce à eux, je me suis pas perdue. Parce que ma famille est un pilier. Ils ont toujours été présents, même s'ils avaient peur. Ils ont toujours, ils m'ont pas lâché. Et comme mes amis d'enfance aussi. Et ça, c'est tellement important. Ça sauve.
Ouais, ça t'avait un vrai socle sur qui te reposer pendant. Ouais.
Et j'ai toujours su d'où je venais. J'ai toujours su quel était mon entourage. Et du coup, je me suis pas perdue grâce à ça. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se perdent parce qu'ils n'ont pas ça.
Ouais. Et pour toi, parce que bon, dans le mannequinat, on a l'image, bon, des magazines, on a l'image des podiums. Est-ce qu'il y a différentes sortes de mannequinat ou c'est
Bah déjà, alors les mannequins podium, alors un mannequin peut tout faire.
Ouais.
Et après, il y a des mannequins qui font essentiellement des défilés, d'autres qui font plus de la photo. Donc c'est plus que vers quoi je me suis dirigée. Parce que quand on intègre une agence, les agents qui veulent nous représenter nous guident ce vers quoi on peut ce qu'on peut faire par rapport à notre corps. Moi, on m'avait demandé de perdre du poids pour défiler. Okay. J'ai refusé parce que je me suis dit, on me prend comme je suis ou on me prend pas. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas, tant pis. Et puis aussi parce que dans mon entourage très proche, j'ai une personne qui a souffert d'anorexie et donc qui a été dans une phase de dépression. Et ça, je l'ai vécu de plein fouet. Et du coup, j'avais pas du tout, déjà pour elle, par respect pour elle, par respect pour ce qu'elle avait vécu, j'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans. Et donc voilà, j'ai accepté, j'ai posé mes limites et donc je me suis plus dirigée moi vers la photo, vers le côté commercial. Mais après, donc les mannequins, il y a des filles qui vont faire plus de lingerie, d'autres qui vont faire plus de vêtements, d'autres qui vont faire plus de beauté. Moi, j'ai la chance de pouvoir tout faire un peu dans la photo et de faire encore un peu de tout. Et voilà, mais par contre, j'ai pas trop fait de défilé.
Ouais. Et quand tu as commencé à faire tes premières couves de magazine, comment tu l'as vécu?
Eh ben, c'était pas en fait, j'ai rien, c'était pas la concrétisation d'un rêve ou quoi que ce soit, non, c'était comme de faire des photos En fait, je cherchais plus, par rapport à moi, je m'en fichais un peu de ce que je pouvais ressentir si je voyais une photo, mais c'était plus si mes parents étaient fiers ou mon entourage était fier que j'étais fière. Et j'ai eu longtemps l'impression qu'ils n'étaient pas forcément très fiers de moi, qu'ils s'en fichaient un peu, jusqu'au jour où je suis tombée complètement par hasard en cherchant des papiers pour m'inscrire dans mon école pour reprendre mes études. Je suis tombée sur plein de magazines, en fait, et il y a des magazines où j'étais même pas sur la couverture, où j'étais juste sur une page, et du coup je me disais ce qu'ils faisaient là. Puis j'avais demandé à maman, et maman m'avait dit, tu demanderas à ton père. Et en fait, ils ont tout gardé, c'est trop mignon. Ouais. Et c'est là où en fait je me suis dit, ça m'a touchée, et ça, j'étais fière. J'étais plus fière que de me voir sur la couverture d'un magazine.
Ouais, c'était leur regard.
Le regard des personnes comme mes amis, dès qu'elles m'envoient une photo, qu'elles me voient, ça me... Là, je suis fière.
Ouais.
C'est marrant.
Ouais. et du coup, tu disais que tu avais repris des études. À quel moment t'as repris des études?
Quand j'ai quitté cette grande agence dans laquelle j'ai été, IMG, quand j'ai quitté cette agence, parce que du coup, je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin et que pour moi, il y avait une fin en soi dans le mannequinat, et je me suis dit fais quelque chose qui te fasse vibrer, parce qu'au bout d'un moment, on fait le tour, parce que le mannequinat, c'est un métier qui est lié à l'artistique, mais on n'est pas des artistes. Le matériel de l'artiste, en fait, quelque part. On est un objet. Et du coup, j'avais envie de me plonger de l'autre côté, de comprendre la photo, de comprendre l'histoire de l'art. Donc, j'ai repris des études qui sont sur ces deux axes, en histoire de l'art et en photographie. Ouais. Et j'ai eu envie, d'approfondir tout ça, d'aller plus loin. Et puis, j'avais rêvé de faire du théâtre et j'ai jamais osé. Et puis, j'ai beaucoup reproché aussi à mes parents. Et puis, un jour, c'est maman qui m'a dit, fais-le si t'en as envie, si t'en empêches. Et puis du coup, je me suis inscrite. Et voilà.
Pour des cours de théâtre?
Oui, aussi.
D'accord. Et donc là, tes études d'histoire de l'art et de photographie sont finies?
Alors, je finis en février prochain.
D'accord.
Et en théâtre, on finit jamais, en fait. Je crois que c'est un peu comme, tu vois, qu'on rentre dedans, on n'a plus du tout envie de s'arrêter.
Ouais. Et donc là, avec cette formation là de photographie et d'histoire de l'art, qu'est-ce que tu as envie d'en faire?
Alors j'avais très envie de devenir agent de photographe. Attends, pardon.
Vas-y.
Excuse-moi. Oui, tu peux prendre si tu veux. Pardon, désolée. Et du coup, ce que j'aimerais en faire, j'aimerais soit travailler en tant qu'agent, donc mettre en lumière les personnes, les représenter, soit travailler dans une galerie d'art, défendre des artistes, essayer de représenter des œuvres. Oui, ce sont des choses qui m'intéresseraient. Après, je suis très, très, très ouverte et très, j'attends de voir ce que l'avenir me réserve. Ouais. Je pense qu'il y a un moment où j'aurai un signal et je me dirai, il faut foncer, il faut aller dans cette direction. Et pour l'instant, je suis encore très, très bac parce que je sais pas, peut-être que si aussi dans le théâtre quelque chose se présente à moi, j'aimerais peut-être bien aussi. J'adorerais même. Et puis le mannequinat, pour l'instant, ça s'est toujours pas arrêté. Ça continue et donc j'en profite.
Ah, c'est ce que je voulais te demander. Ouais, tu fais toujours du mannequinat?
Oui, je fais toujours du mannequinat. Je travaille toujours en tant que mannequin. J'ai la chance de toujours pouvoir travailler et j'ai l'impression que c'est pas encore fini. Et là, j'ai pas non plus envie de fermer les portes pour le moment. Je fais confiance. Je crois vraiment qu'à un moment, l'univers me fera comprendre que c'est le moment et il faut aller vers ça plutôt que vers ça. Pour l'instant, j'ai pas envie de fermer de porte et donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer, que ce soit mes études ou de continuer à me donner la possibilité en tout cas de faire plein de choses.
Parce que là, du coup, tu es une jeune maman.
Oui.
Et comment ça se passe le fait d'être mannequin et maman? Parce que l'ayant vécu, ayant deux enfants, le corps n'est quand même pas le même après avoir eu un enfant. Quand t'es mannequin, ça a forcément un impact, j'imagine.
Ah ouais, c'est un impact. Et puis surtout, pendant la grossesse, on se pose plein de questions parce qu'on se demande si on va pouvoir encore travailler. Et puis, alors, Même si j'ai jamais forcément eu besoin de faire de sacrifices pour avoir mon corps ou le corps que j'ai, qui n'est pas parfait, hein, mais en tout cas pour être comme je suis, ça fait quand même peur quand on voit son corps changer à ce point, et on se remet beaucoup en question. Et puis c'est tellement aléatoire, on ne sait pas ce qu'on va retrouver après. Et moi, j'ai ce souvenir après avoir accouché. Parce que alors, j'étais persuadée qu'en claquant des doigts, mon corps allait revenir. Et après avoir accouché, de me retrouver sous la douche, et il y avait un énorme miroir devant la douche, et de voir mon corps, et j'ai pleuré. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est un champ de bataille, quoi. C'est horrible ce qu'il en reste. Et en fait, tout s'est remis en place très rapidement et sans rien faire, parce que je pense qu'il y a une mémoire, ou enfin en tout cas ça s'est remis en place pour moi. Peut-être que ça se passera pas comme ça pour le deuxième, hein. Mais pour le premier, ça s'est remis en place, et j'ai prié très fort. La prière aide.
Ouais.
Et après, j'ai repris le travail hyper rapidement. J'ai accouché le 1er juin, et le 7 juillet, je recommençais à travailler.
Ah ouais.
Ouais.
Ah, c'est.
Ouais. Je me suis étonnée moi-même, hein, franchement. Et
ouais.
Même les équipes avec lesquelles je travaille étaient étonnées. Mais ça s'est bien passé. En plus, c'était des équipes que je connaissais très bien, et donc ils étaient tous trop contents de me voir, de me poser des questions sur la naissance de ma petite fille, de mon Hortense. Et c'était sympa. Voilà. Après, on me propose maintenant. Déjà, c'est compliqué quand je travaille d'être loin d'elle, parce que quand je travaille en tant que mannequin, je suis obligée de partir.
Et pourquoi tu es obligée de partir? Est-ce que ça se tourne pas à Paris en général?
Parfois, c'est assez rare, mais souvent on part 2-3 jours et on revient pas le soir.
D'accord.
Et ça, c'est un peu difficile.
Ouais.
Et sinon, c'est un peu difficile de la laisser. Après, on propose de plus en plus des trucs, enfin de faire des photos avec Hortense, des projets comme ça. Pourquoi pas? Après, moi, j'ai pas envie de. Finalement, ce que mes parents, j'ai longtemps reproché à mes parents, mais en fait, finalement, je fais un peu la même chose. C'est que je sais pas si j'ai envie que ma fille soit. Enfin, elle fera ce qu'elle voudra. Hein. Elle sera complètement libre. Mais si ça lui plaît, tant mieux. Si ça l'amuse, mais j'ai pas envie de la forcer, et j'ai pas envie
De la surexposer tout de suite. Ouais.
Non. Et puis, je trouve qu'il y a un truc dans les castings, parce qu'on est obligé de faire les castings avec le bébé, qui est complètement malsain. D'aller faire un casting avec son enfant, jusque-là, tout va bien. Après, qu'on me dise non, moi, quand je fais des castings, je m'en fous complètement.
Ouais.
Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul. Et par contre, qu'on dise non à mon enfant, ça m'embête un peu.
Ouais.
Et donc, j'ai pas envie qu'elle ait à vivre ça. Donc, on verra. On verra.
Les castings, ça c'est quelque chose dont j'ai parlé avec une de mes invitées, mais l'épisode n'est pas encore diffusé. C'est quelque chose comment tu le vis, toi?
Alors maintenant, je le vis, je prends énormément de recul. Mais à l'époque, c'était très difficile quand j'ai commencé. Bah, parce qu'on s'expose quand même déjà à des refus au regard des autres. Donc il faut s'assumer, il faut avoir suffisamment confiance en soi pour se dire aussi que si on nous prend pas, ben tant pis pour eux. Et puis c'est pas parce qu'on nous prend pas que c'est qu'on est nul ou qu'on est moche, ou c'est juste parce qu'on correspond pas. Mais ça, c'est difficile aussi de l'ancrer, de se le mettre dans la tête. C'est pas évident. Aujourd'hui, je prends beaucoup de recul avec les castings. Puis c'est quand même hyper drôle parce que on peut avoir 3 castings dans une journée. Le premier, on arrive, on nous regarde absolument pas, mais c'est next. Le second, on va être la 8e merveille du monde. Là, et puis le 3e, ou pareil, on nous regarde pas. Donc c'est quand même très aléatoire. Et finalement, le mannequinat, tout est axé sur un physique, sur une image, sur son dégage. On correspond, on correspond pas. On aime ou on n'aime pas. La beauté, c'est très aléatoire. Et il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Et puis après, la beauté aussi, qu'est-ce que la beauté? La beauté, ce sont des idéaux, des idées qu'on se fait par rapport à nos normes. Mais finalement, on va nous voir, donc on nous juge sur ce qu'on est. Mais le métier de mannequin, c'est d'être derrière un objectif, c'est de prendre la lumière. C'est d'être, on est maquillé, on est mis en valeur, et on ressemble pas du tout à ce qu'on est au naturel.
Ouais.
Donc ça, c'est
le premier mannequin que j'ai rencontré, c'était quelqu'un. Moi, j'ai fait une école de commerce, et c'était un mec qui était dans ma promo, et il était pas mal, mais franchement, enfin, tu te, enfin, oui, il avait un truc, mais qu'on pouvait trouver beau ou pas beau, en fait. Et il défilait pour Agnès B. Donc, un jour, je me rappelle, on était en stage à Londres et le magasin, il y avait un 4x3 de lui. Et tu dis, mais mon Dieu, mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir le même mec à côté, en fait. Et c'est fou. Et même là, tu vois, il y a eu Miss France il y a pas longtemps.
Oui.
Et moi, ça me fait marrer chaque année de regarder Miss France. Et je regardais, il y a une, d'ailleurs, la même école de commerce, c'est Miss Côte d'Azur, qui est dans l'école de commerce que j'ai faite à l'époque. Et j'avais vu sa photo de profil parce que l'école avait partagé aux anciens, regardez, on est trop fiers, on a une Miss France, on a une Miss France et tout. Et tu regardais la photo sur son profil LinkedIn et tu la voyais maquillée et tout, tu dis, mais c'est pas la même nana, en fait.
Oui, c'est sûr. Ah, mais c'est fou. C'est ce que me dit mon mec à chaque fois quand je rentre de shooting, quand je suis maquillée et tout, il me dit j'ai l'impression d'avoir une autre femme.
Il préfère laquelle ?
Ah bah alors lui, il aimerait bien que je sois tout le temps maquillée, mais moi je préfère être naturelle. Non, mais après le naturel, c'est mieux, c'est bien. Mais c'est vrai que ça change, c'est sûr, c'est notre métier. Notre métier, c'est justement la photogénie, la vidéogénie, c'est de faire rêver. Et du coup, il y a des gens qui sont très beaux, qui ne rendent strictement rien derrière une caméra, et des gens qui sont un peu moins beaux et qui vont avoir un truc de fou, Kate Moss en est l'exemple flagrant. Elle est très jolie, mais bon, elle est pas non plus incroyable. Et enfin, elle est incroyable en photo, en tout cas, elle est juste. Ouais. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi beau. Elle est incroyable. Elle perce l'écran. Elle a une personnalité, un truc dans le regard qui font toute la différence.
Ouais. Et donc là, comment t'as fait pour gérer mannequinat, enceinte, enfin jeune maman, plus tes études, parce que c'est quand même costaud.
Ah ouais, bah là je sais pas comment je fais. Je je sais pas. Je me pose pas de questions, en fait. Je fonce, j'avance. Ouais. Je me repose pas trop. Et puis je prends quand on me propose un job, je prends, j'accepte parce que j'ai appris à dire oui et à prendre un peu tout ce qui se présente à moi comme une chance. Et du coup, je prends vraiment ça comme une chance, comme mes études. Et si il me faut un peu plus de temps pour réaliser, pour aller au bout de mes études, je prendrai un peu plus de temps, c'est pas grave.
Ouais.
Mon école est au courant, ils sont d'accord, on se débrouille. Et par contre, pour mon enfant, je peux pas prendre un peu plus de temps. Donc là, j'essaye de passer le plus de temps possible avec elle, de profiter parce que elle grandit tellement vite, ça passe tellement vite.
C'est clair. Ouais.
Déjà 7 mois et c'est fou. Enfin, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle m'échange. Et là, j'ai récemment trouvé une nourrice. J'espère que ça va bien se passer parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un en qui on ait confiance et qu'on laisse son enfant. Et donc voilà, puis après il y a mon mec aussi qui prend le relais et qui est là quand même beaucoup, qui s'en occupe énormément, et ça c'est génial.
Ouais, et le fait d'avoir un enfant, est-ce que dans ta carrière il y a un moment où tu t'es dit pas tout de suite parce que en effet ça aura forcément
sûrement
pas tant que ça.
Ouais. Ah ouais, surtout dans les métiers qui sont liés à l'image, on se pose toujours plein de questions, on repousse toujours au lendemain. Et puis il y a un moment où moi en tout cas je me suis posé la question de ce qui était essentiel. Et dans 10 ans, j'allais me retourner sur qu'est-ce que j'avais envie qu'il reste, si jamais je dois partir plus tôt ou quoi que ce soit. Et en fait, je crois que pour moi, avoir un enfant, c'était vraiment la concrétisation de d'une vie. C'est avoir un ou deux enfants, ou trois peut-être, qui sait. Mais en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, le travail et les rêves, c'est tout aussi important pour moi. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu pour s'écouter dans son cheminement personnel et dans ses envies professionnelles ou dans ses envies tout simplement. Et donc c'est là où c'est difficile de trouver le juste milieu. Et j'espère que je le trouve, mais après on verra. Je pense que seul l'avenir me le dira. Si il y a que ça qui pourra me dire oui, t'as réussi ou pas.
C'est une bonne transition sur ma question d'après. C'est quoi pour toi la réussite?
La réussite, qu'est-ce que réussir? Ça, c'est très compliqué. Qu'est-ce que réussir? Pour moi, la réussite, c'est de se sentir complètement en adéquation avec ce qu'on est. Et de se dire, et aujourd'hui, en tout cas, je me dis, je suis exactement la femme que j'aurais voulu être il y a 10 ans. C'est ça pour moi, réussir. Après, je peux pas dire que je vais réussir dans les 10 prochaines années. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis exactement celle que j'aurais voulu être. J'écris chaque fois, chaque année, j'écris, je fais une petite liste de choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de réaliser. Et généralement, je la plie et je la cache quelque part. Souvent, j'oublie. Je ne sais plus où je la mets. Je retourne dessus. Et ben, c'est assez étonnant parce que en fait, je me rends compte souvent que j'arrive à faire ou à réaliser ce qui a été écrit, presque tout. Ouais. Avoir un enfant, ça faisait un moment que... Déjà, avant avoir un enfant, c'était trouver quelqu'un.
Ouais, le papa, ouais.
C'était pas évident.
Ouais. Donc,
mais c'est comme professionnellement. J'écris. En ce moment, j'avais très envie d'avoir un agent plutôt dans le cinéma. Je l'ai eu. Après, j'avais envie d'intégrer une bonne école, de passer des auditions. Tout ça, j'écris à chaque fois ce que j'ai envie, ou j'ai envie de devenir agent, j'ai envie de faire plus de photos, de faire une exposition, ou de faire l'humanitaire, ou de voyager à tel endroit. J'écris tout ça. Et au bout d'un moment, ça se réalise. Parce que peut-être que de les écrire, de les mettre de côté, d'y penser, mais après de s'en libérer, de s'en dégager, ça nous donne l'opportunité d'y arriver.
On a beaucoup rigolé avec ça pendant les vacances parce que mon frère est très pragmatique et moi, je peux avoir un petit côté spirituel et perché, mais depuis toujours, enfin lui, il a toujours été un peu ingénieur et moi, un peu artiste. Et en fait, je lis beaucoup de choses sur la théorie de la visualisation qui dit que le fait d'écrire, et notamment l'écrire de façon manuscrite, a un impact hyper important dans l'inconscient et dans l'imaginaire. Et donc, du coup, c'est la loi de l'attraction. Tu visualises et donc tu attires à toi. Donc, il s'est beaucoup moqué de moi parce qu'en mode, à chaque fois, non, il y croit pas du tout. Mais il y a un reportage sur Netflix qu'il faut que je lui envoie qui explique, et ça s'appelle Le Secret, je crois, un truc comme ça.
Le livre aussi, je sais pas si tu l'as lu.
Non.
Ah bah, lis-le. Le Secret, c'est un livre, mais... C'est passionnant.
Tu lis ça, tu dis, enfin tu, et puis moi je sais que depuis que j'ai découvert ça, je le pratique de plus en plus sur certaines choses et ça marche. Alors après quand tu racontes, ils se moquent de moi, mais c'est pas grave parce que n'empêche que ça a marché. Mais clairement ce que tu dis, c'est le fait d'écrire la chose, de la penser, de l'intérioriser, ça, il y a des choses, c'est pas magique en fait, c'est
bien sûr. De visualiser aussi, demande et tu auras. C'est tous les soirs déjà d'être dans la gratitude, de remercier, et puis après d'essayer de penser le lendemain ta journée, comment tu as envie qu'elle se passe, qu'est-ce que tu as envie qui t'arrive, les réponses que tu as envie de recevoir. Et bien moi je t'assure, mais je reçois des réponses. Mon cœur se moquera de la même manière de moi, j'y crois profondément.
Et s'il nous écoute, on pense à lui.
Et pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas,
parce que à façon...
Pardon ?
Vas-y. Non, vas-y, excuse-moi.
Non, mais parce que quand on réfléchit à tout ça, il y a beaucoup de gens qui... C'est comme la vie après la mort. Beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de gens aussi s'en posent pas du tout. Ils se disent ça n'existe pas, ok. En tout cas, et ça, y a plus de preuves, y a plus de choses qui nous incitent à croire en la vie après la mort qu'en rien.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est difficile de démontrer qu'il n'y a rien. Par contre, on peut démontrer sans prouver. Donc, ça reste spéculatif, hein, mais on peut démontrer qu'il peut y avoir quelque chose. En tout cas, rien que ça, ça donne plus envie d'y croire que de croire en rien. Enfin, je sais pas. C'est comme dans les dimensions. Pendant longtemps, Einstein pensait qu'il y a, au début de sa vie, enfin pas au début, mais il avait monté des théories comme quoi il y avait 4 dimensions. Ce qui est vrai, 4 dimensions, l'espace-temps et puis l'espace. Mais après, au bout de, à la fin de sa vie, c'est qu'on a commencé de plus en plus à s'intéresser aux théories quantiques. Et théories quantiques, quand Oscar Klein explique qu'il peut y avoir une 5e dimension, et puis après quand on va encore plus loin, qu'il peut y avoir une 7e, voire certains qui disent 20, jusqu'à 26 dimensions, ça veut dire qu'en fait l'univers est tout simplement tellement plus large, tellement plus profond que ce qu'on pense. Enfin, je sais pas. Je crois qu'on va avoir encore beaucoup, beaucoup de surprises dans les années très loin. On va apprendre plein de choses.
Ouais. Ouais, il faut être ouvert à tout ça parce que de toute façon, il se passe des choses.
Ah oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, la plupart des personnes dans l'univers artistique sont ouvertes à tout ça et y croient profondément. Ouais. Et je me demande justement si c'est pas ce qui fait, ce qui leur donne aussi la foi et cette envie de travailler dans cet univers et la force de travailler là-dedans.
Ouais, cette espèce de petit grain de folie qui fait le génie.
Ouais. Oui, oui. Enfin, après le génie, pour moi, le génie, je vois quelque chose d'incroyable et de magique. Je ne sais pas si on peut parler de génie, mais en tout cas, ce qui leur donne la possibilité d'aller plus loin ou de ne pas avoir peur d'aller plus loin.
Ouais.
Parce qu'en fait, les gens qui sont très rationnels, ils ont un peu peur. Ils sont ancrés dans un truc où c'est rassurant.
Bah, c'est une partie de leur... En fait, les gens qui sont à un côté artistique et les gens qui ont un côté plus pragmatique, ingénieur, ne font pas travailler la même partie de leur cerveau, en fait.
Oui.
Ouais.
Tout à fait. L'hémisphère. Il y a l'hémisphère droit.
L'hémisphère droit, ouais.
Ouais.
La clé, c'est peut-être d'arriver à faire travailler les deux au même niveau, mais bon, je crois que c'est une tâche assez difficile.
Bon, je pense que ça va être compliqué. En tout cas, moi, je...
Ouais. On va rester dans l'hémisphère artistique. Qu'est-ce que tu penses que la petite Camille dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Je pense qu'elle serait très étonnée. Elle serait très étonnée et je pense qu'elle aurait envie de foncer et qu'elle aurait plus peur. Parce que je pense que la petite Camille avait peur, elle se posait plein de questions. Et moi, si je pouvais lui dire quelque chose, ouais, je lui murmurais quelque chose à l'oreille, c'est je lui dirais fonce, n'aie pas peur, crois en toi, écoute-toi, fais-toi confiance. Et fonce, quoi. Profite de la vie. Profite de chaque moment, parce que ça n'existe qu'une fois. Et puis après, et puis même si tu te plantes, c'est une directrice qui m'a dit cette phrase. La dernière fois, j'étais triste parce que je sais plus ce qui m'était arrivé. Elle m'a dit, mais Camille, quand tu tombes, ramasse quelque chose. Et en fait, c'est tellement vrai.
Ah, j'aime bien, ouais.
Ouais. Joli. Ouais. On ramasse toujours quelque chose en tombant. On apporte toujours quelque chose. Enfin, en tout cas, si on ne le fait pas, il faut le faire parce que ça, il faut que ça serve à quelque chose.
C'est clair. Oui, et puis de toute façon, l'échec, c'est tomber une fois de plus avant de réussir.
Exactement. Ouais. Et puis, les échecs font partie de la réussite, ce qui nous mène, nous guide. Il y a un livre aussi, c'est La place des synchronicités dans le roman de notre vie. Il a été écrit par Robert Hoch. Et justement, sa place, ça explique le fait qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des synchronicités, et que tout ce qu'on vit nous amène vers quelque chose. Donc à travers ce livre, il retrace la vie de plusieurs personnes et ce qui leur est arrivé et comment ils y sont arrivés. Je pense que ça pourrait t'intéresser.
Je vais regarder, je vais le noter aussi et je le mettrai sur le lien sur le blog.
Ouais, il n'y a pas de hasard.
Ouais. C'est amusant parce que cet été, j'ai suivi une formation de psychologie positive et qui parlait justement de la place des synchronicités. Et à la fin, en fait, de la capsule où elle parlait, où Christine Michaud, qui est une personne que j'ai interviewée, parlait des synchronicités, il y avait un petit coussin dans son dos qui était le même coussin. Ça faisait peut-être 20 ou 30 capsules où on la voyait assise sur ce coussin. Mais c'est la première fois où j'étais en mode ouverture de l'esprit, où j'ai lu ce qu'elle avait écrit sur ce coussin et j'en ai pleuré en fait tellement c'était une vraie synchronicité et là on était en vacances donc dans la maison familiale et j'ai retrouvé un livre qui est d'ailleurs au-dessus de moi qui s'appelle Le dictionnaire des symboles que j'ai ramené parce que c'est un livre que j'ai dû avoir quand je devais avoir aller peut-être 16-17 ans et ça m'a toujours ces trucs-là ça m'a toujours fascinée. Mais dans une famille parfois un peu cartésienne, enfin un frère, parce que mon papa est plutôt ouvert sur tous ces trucs, mais avec un frère très cartésien, je me suis dit, bon, j'avais un peu refoulé ça. Et là, je me suis dit, allez, je le ramène, il est au-dessus de moi. Et j'en ai un autre aussi qui s'appelle « Pour tout l'or des mots », qui explique toute l'origine de chaque mot. Et je trouve ça assez fascinant. Tu vois, il y a un dictionnaire dont je parle souvent dans le podcast qui est le dictionnaire des mots et des maladies. Mais là, pour le coup, des mots M-A-U-X et qui te donne en fait les origines de chaque mot ou maladie. Donc, tu vois, typiquement, j'ai souvent des sciatiques et en fait, je me rends compte que les sciatiques, quand je les ai, c'est quand j'ai peur d'avancer. Et en fait, c'est hyper intéressant de regarder tous ces significations et la profondeur de tout ça, en fait.
Mmh. Ah oui, complètement. Ben là, pour Noël, je me suis fait un cadeau. Je me suis acheté un livre qui s'appelle Le corps se souvient. Et ça parle aussi de tout ça, ouais. Notamment des bagages ancestraux. Ça fait un doux mélange. Et c'est aussi très intéressant. Ouais, moi, je crois profondément en tout ça. Même les mots dont tu disais, tout a un sens. Même le terme repère aussi. Enfin, tu vois, tout a un sens autour de nous.
Ouais.
C'est vraiment intéressant.
Ouais, c'est en fait quand tu ouvres en fait le champ des possibles dans cet univers, dans ce prisme-là de voir la vie, c'est fou de voir tout ce qui se passe en fait, tous les signes qui se glissent en fait sur ton chemin et tu peux passer au même endroit. Enfin, c'est rigolo parce que depuis que j'ai fait ce programme, je passe au même endroit tous les matins pour emmener les enfants à l'école, mais il y a des trucs que je vois que je n'avais jamais vu, tu vois. Et l'autre jour, je dis à mon mari, mais t'avais vu ce truc sur le chemin? Enfin, le chemin, c'est 4 minutes à pied. Hein. Il me dit, bah non, je l'avais jamais vu. Et c'est fou en fait de se dire que quand tu ouvres en effet ton prisme à essayer de voir d'autres choses et de voir ça un peu comme un jeu, te dire qu'en fait t'as des petites surprises qui te glissent. Tu vois, typiquement en septembre, je voyais tout le temps des plumes par terre. Et n'importe qui pourra dire bah des plumes, oui, je sais pas, c'est la saison des moments où les oiseaux ils perdent leurs plumes, je sais pas quoi, mais en fait des plumes j'en voyais plusieurs fois par jour. Et je suis sûre que si j'avais demandé à mes enfants avec qui je passais mes journées, ils les ont pas vus en fait. Et quand tu regardes la symbolique des plumes, bah tu dis ah bah ouais, c'est on me parle.
Non mais oui, tout à fait.
Ouais.
Parce moi je suis très tournée aussi vers les signes. Alors après il faut je crois un peu enfin il faut s'y tourner en prenant un peu de recul pour pas être que là-dedans non plus. Mm-hmm. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça permet d'avancer et surtout ça permet de remettre les choses à leur place. Parce que finalement, quand on est enfant, on a la possibilité de voir tout ça. Et on a toutes ouais. les portes qui sont ouvertes. Et en devenant adulte, on ferme toutes ces portes. Mmh. Et je crois que de se retourner, d'essayer de réfléchir, de se reconnecter avec nous-mêmes, mais du ouais. coup, quand on se reconnecte avec nous-mêmes, on se reconnecte avec l'univers et avec tout ce qui nous entoure et avec les autres, mmh. et ben d'accepter ces signes, tout ce qui nous entoure, c'est se réouvrir son cœur d'enfant et c'est peut-être aller plus loin et plus haut.
Ouais, c'est ce que disait Thomas Samut, une personne que j'ai interviewée. Il disait en fait, on est juste nous enfants qui avons grandi en fait.
Tout à fait.
On a la même âme, mais alors oui, on a traversé des choses qui nous ont façonné, mais finalement, ce cœur d'enfant et cette flamme, c'est toujours nous en fait.
Ouais, complètement. Mmh. Et puis une fois de plus, rien n'arrive par hasard. J'ai une copine qui a vécu des trucs assez douloureux physiquement, qui a été malade. Et un jour, elle m'a dit, et ça m'a un peu perturbée, elle m'a dit, tu sais Camille, on a la vie que l'on mérite. Alors j'ai trouvé ça un peu dur. Et après, elle m'a dit, non, c'est pas exactement on a la vie que l'on mérite, c'est on a la vie que l'on peut supporter et que l'on doit supporter. Parce que il y a des choses qui nous arrivent. Et il faut les accepter, même si elles sont négatives, que ce soit des départs, que ce soit des trucs difficiles professionnellement ou sentimentalement, enfin tout ce qui peut nous arriver dans une vie. Mais tout ça, ça nous emmène quelque part. Et peut-être que si on les vit, c'est qu'on a des choses à comprendre aussi par rapport à nous-mêmes. Mais même dans la difficulté, même dans les agressions ou dans les rien n'arrive par hasard, même si c'est dur. Et tout ça, de ce noir. Il faut se tourner vers la lumière, se tourner vers le positif, vers le blanc, essayer d'en faire quelque chose. Et le jour, je pense, où on en a fait quelque chose, c'est là où on peut se dire qu'on a réussi aussi.
Ouais, carrément. Ouais, c'est dans chaque situation se dire quel était ce fameux cadeau qui est mal emballé à travers cette situation. Et se dire, bah, clairement, dans chaque situation, autant se dire qu'est-ce que j'en retire de positif. Tu vois, une personne très proche dans mon entourage a perdu son papa quand il avait 11 ou 12 ans. Enfin, vraiment, il était d'une crise cardiaque, enfin, le truc qui forcément laisse des traces. Hein. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, c'est une chance d'avoir perdu mon papa aussitôt. Et alors forcément, il y a plein de gens que ça choquait parce que tu dis, enfin, comment tu peux dire un truc pareil? Mais en fait, il a toujours eu cette philosophie de vie de se dire, bah voilà, de toute façon, son papa, il est plus là, on va pas pouvoir le faire revenir. Donc autant se dire, bah en quoi ça lui a apporté une espèce de force et qui a fait que c'est l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais voilà, il s'est toujours dit, bah voilà, comment je fais pour transformer cette épreuve en une force plutôt que de s'apitoyer sur son sort en disant, bah voilà, ma vie est fichue, j'ai perdu mon père, quoi.
Ouais, non mais alors ça, quand on a cette possibilité, cette faculté, cette chance de pouvoir voir le verre à moitié plein, je pense qu'il faut déjà, bah, il faut s'en servir parce qu'on a la chance de pouvoir le faire, c'est sûr. Mais en tout cas, il faut penser à toutes les personnes qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas, qui n'arrivent pas à se libérer de ce marasme, de toutes ces choses un peu difficiles. Et ben, je trouve que ça génial de pouvoir avoir des témoignages comme ça, de personnes qui te disent quand même qu'il a eu la chance de perdre son papa. Et en même temps, c'est tellement vrai, même si c'est très bizarre, hein, de dire. Mais c'est une chance, oui et non, parce que du coup, on peut plus en profiter aujourd'hui, maintenant, physiquement. Mais par contre, la personne est toujours là et quelque part, elle accompagne encore plus. C'est quelque chose qui est au-dessus de ces personnes qui sont parties, c'est au-dessus de nos têtes. Et tu vois, dans les signes, dans les messages. Moi, j'étais très, très proche d'une personne qui était ma grand-mère. Depuis qu'elle est partie, je suis encore plus proche d'elle. C'est bizarre de dire ça, mais.
Mais t'es pourtant, pas la première personne à me dire ça. Ouais.
On est connectés et je sais qu'elle est là. Alors ça, il faut être spirituel, il faut croire, mais quand on croit, tout est possible.
Ouais, c'est clair. Dans la vie, on dit que qui dit choix dit renoncement. C'est quoi à toi tes renoncements dans ta vie de mannequin?
Alors moi, pour moi, choisir, c'est quelque chose de très, 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 très difficile. Parce que choisir, forcément, oui, c'est renoncer. Et je suis incapable de renoncer à quelque chose. Et c'est un peu mon problème. C'est pour ça que parfois, j'ai du mal à me concentrer que sur, tu vois, sur une filière. C'est pour ça que je reprends plein de choses. Donc après, il faut aller au bout, parce qu'autrement, autrement, on n'est pas fier de soi. Et c'est difficile, parce que plus on entreprend, plus on doit aller au bout, et c'est compliqué. Mais renoncer, alors à une époque, renoncer, c'était passer moins de temps avec ceux que j'aimais. C'était être seul, accepter d'être seul. C'était renoncer à une vie plutôt simple que j'aurais pu avoir. Et quelque chose de plutôt rassurant, parce que être mannequin, c'est absolument pas rassurant, même d'un point de vue financier. C'est pas de quoi demain est fait. On n'a aucune garantie. Et puis c'était à l'époque renoncer aussi à avoir une vie de famille. Mais finalement, tu vois, les choses ont évolué. Aujourd'hui, à une époque, à un moment, quand j'ai été enceinte, j'ai eu peur de renoncer au mannequinat et à mes rêves. Et il a fallu un peu de temps, quelques semaines, pour me dire qu'en fait, rien ne s'arrête, tout est possible. Et c'est en fait, il faut juste pas se dire qu'on peut renoncer à quelque chose. Et il faut rester ouvert et essayer d'être le plus organisé possible pour arriver à tout faire. C'est possible, même si après il faut avoir des priorités quand même. Et pour moi, ma priorité aujourd'hui, ma priorité numéro un, c'est ma famille. Et après, juste en dessous, mais vraiment juste en dessous, ce sont mes rêves et mes passions.
Ouais. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eues à gérer ?
Dans ma vie, les plus grandes difficultés sont... Alors ça, c'est un peu compliqué, mais j'ai déjà d'accepter les bagages... transgénérationnel que j'avais sur le dos, les mettre de côté. Ouais. Ça, c'était compliqué. Quand j'étais plus jeune, j'ai dû faire face j'ai été agressée et du coup, d'accepter tout ça, d'en faire quelque chose, de me construire avec tout ça et de comprendre aussi pourquoi je m'étais dirigée là-dedans. Je pense que c'était ce qui était le plus compliqué. Et puis après, ça a été aussi les départs de certaines personnes que j'aimais profondément et d'accepter aussi leur départ. En fait, c'est d'accepter les choses de la vie.
Ouais.
<Un film. rire> Mais ouais, non, je pense que ça a été compliqué. Ouais, c'est ce qui a été le plus compliqué. Et mais d'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui j'ai l'impression que ça va mieux, que je suis bien. Mais peut-être qu'un jour, je me reprendrai une claque et j'aurai tout un travail à recommencer, à refaire et pour aller plus loin, pour avancer plus. Ouais, ça, je sais pas. On verra.
Ouais, après, je suis assez convaincue que quand on a fait un gros travail, après, on a des bases quand même plus, même si en effet, la vie n'est pas un, il y a encore des vagues qui nous arriveront. Hein. Mmh. Quand on a fait un gros travail, il y a une grosse partie qui est quand même pour la vie.
Je crois. J'espère. On verra.
Ouais.
Mais oui, je pense, parce que forcément, on n'a plus besoin de se retourner. On peut encore approfondir, on peut aller plus loin, mais après, le plus gros du travail est fait, comme tu l'as dit, c'est ça, c'est sûr. Ouais.
Quand tu t'es lancée dans le mannequinat, c'était quoi tes plus grosses peurs?
J'avais pas trop de peur, j'avais plutôt beaucoup. J'étais très, très excitée de découvrir un nouvel univers. Si j'avais réfléchi par rapport à mes peurs, je pense que j'aurais pas fait. J'aurais pas avancé. Donc, j'essaye souvent de pas trop penser par rapport à mes peurs. Donc, je pense plutôt par rapport à ce qui me motive. Tu vois, j'essaie de toujours voir le verre à moitié plein. Mais par contre, oui, c'est sûr qu'à travers le prisme de mes parents, j'avais un peu peur du milieu, des personnes que j'allais rencontrer, de tout ce que j'allais voir, les fréquentations. J'avais peur qu'on m'oblige à maigrir, j'avais peur de rencontrer des gens pas gentils, des gens malsains.
Ouais.
Et en fait, j'en ai rencontré. Et puis finalement, c'était pas un drame. Hein, c'est trop facile de dire ça, mais en tout cas, il faut prendre du recul et accepter aussi toutes ces personnes. Bah tu vois, c'est la même chose. Il faut accepter en fait toutes ces failles, tout ce qui nous arrive, parce qu'on a, on doit le vivre et on doit rencontrer ces personnes pour comprendre comprendre plus de choses par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie, pour aller plus loin. Mais c'est sûr que oui, c'était quelque chose qui me faisait peur. Puis j'avais peur aussi d'être seule.
Ouais. Et au final, tu l'as été.
Ouais. Au final, j'ai été seule beaucoup.
Ouais.
Et puis quand on voyage comme ça, on n'a pas forcément beaucoup de personnes autour de nous, mais finalement on y prend goût à cette solitude parce que c'est tellement enrichissant en fait de se retrouver seul face à soi-même dans des univers où il y a rien, où on peut se reposer sur rien. C'est aussi, il y a beaucoup d'adrénaline, c'est très excitant. Et ouais. Après, j'avais peur. Aujourd'hui, j'ai peur aussi de un jour que ça s'arrête, tout ça.
Ouais.
Parce que c'est comme vivre un peu avec une drogue, qui tous les matins, on est excité parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais un jour, il faudra avoir un métier plus normal, et savoir exactement ce qui va se passer. Alors même si on ne sait jamais, mais en tout cas, savoir que tous les matins, tu vas à telle heure au travail, ça, c'est un peu, pour moi, c'est un peu triste.
Ouais, mais est-ce que tu peux pas imaginer justement rester mannequin toute ta vie, mais alors après évidemment pas le même type de mannequinat parce que ton corps va évoluer avec l'âge.
Si on peut, peut-être, je sais pas. Là-dessus, en tout cas mon âge, à chaque fois, moi j'ai toujours pensé que ça allait s'arrêter quand j'aurais 25 ans. Quand j'ai eu 25 ans, on m'a dit que ça s'arrêterait quand j'aurais 30 ans. Quand j'ai eu 30 ans, maintenant on parle de 35 ans. Et quand je pense que j'en aurai 35, on parlera de 40 ans. Ouais. Je pense qu'on peut évoluer, on peut changer, surtout qu'en plus les normes maintenant dans l'univers les gens ont plus envie de voir des choses vraies, des gens vrais, ils ont plus trop envie de voir des nanas de 20 ans défendre des produits pour les rides. qui concerne des femmes de 40 ans, même pas, 50 ans plutôt, ça dépend des femmes. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, peut-être. Alors, est-ce que j'aurais encore envie de travailler dans cet univers? Je sais pas.
Ouais.
Ça, on verra. Peut-être que j'aurais déjà fait autre chose et que j'aurais envie de faire autre chose. Mais en tout cas, c'est quand même un métier c'était un luxe de pouvoir faire un métier où on travaille 2-3 jours dans le mois et de pouvoir avoir du temps libre à côté, faire plein d'autres choses, de voyager, d'avoir du temps pour son enfant, ou d'avoir du temps pour étudier, de faire toutes les galeries d'art, de faire du sport. Enfin, c'est quand même super, ça.
Ouais.
Je me rends compte de la chance que j'ai et je me dis que c'est compliqué après de faire autre chose.
Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
Je sais pas si je peux... Je suis heureuse de... Bah déjà, je suis fière de en fait, c'est bizarre de dire ça, mais je suis fière des personnes qui m'entourent. Je suis fière de toutes les personnes qui m'entourent. Ça, c'est une fierté. Quelquefois, quand je regarde que ce soit ma famille, mes amis, ma fille, mon copain, je suis fière parce que je me dis que je suis bien entourée. Et pour moi, la richesse d'une personne, c'est se mesure aux personnes qui l'entourent. Quand je souris, c'est grâce à moi, mais c'est aussi grâce aux gens qui m'entourent. Je les ai choisis, toutes ces personnes. Même ma famille, je considère que je les ai choisis. Et qu'on évolue tous ensemble. Et ouais, je suis très, très fière d'eux. Et du coup, je suis fière de moi. Et mon parcours aussi de vie, je l'ai grâce à eux. Donc, ouais, je suis fière d'eux. C'est compliqué comme question.
Ah ouais, c'est compliqué.
Quand j'ai accouché, j'ai un copain. Deux copains d'ailleurs, ils étaient tous les deux ensemble, qui m'ont demandé si j'étais fière de mon bébé. Et je suis restée bête parce qu'en fait, je savais pas quoi répondre. Et je leur ai dit, mais on peut pas être fière de son bébé. On est fière de quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné la vie. Alors oui, mais enfin, c'est quand même bizarre de se dire qu'on est fière d'avoir donné la vie. On est fière de son bébé et ce petit être qui vient juste d'arriver. Et en fait, si ils ont raison, on peut être fière de son bébé. C'est juste qu'en fait, ouais, la fierté, c'est difficile d'être fier de soi parce que du coup, c'est se dire ce que tu fais, c'est bien et c'est top. Et les personnes qui t'entourent sont. C'est plus facile de dire que les autres sont bien que soi. Et à travers son bébé, un petit être qui vient juste d'arriver, de se dire qu'on est fier de lui, fait, tu vois, c'est un peu. Et en fait, ouais, je suis fière d'être maman, je suis fière de mon bébé, je suis fière de mes amis, je suis fière de ma famille, je suis fière de moi. Voilà.
Après, on a souvent tendance à dire qu'on est fier de son bébé, en tout cas à la naissance, quand l'accouchement s'est mal passé, quand la grossesse s'est mal passée, parce qu'on se dit bah, que ce petit être, il s'est battu. Mais finalement, quand tu penses, là, je regardais un reportage l'autre jour sur la conception des enfants, enfin, s'expliquer, je tombais là-dessus sur M6. Et tu dis, bah, finalement, quand même, c'est quand même un défi quand même de ma boule, quand même, d'arriver à donc on peut être fier du spermatozoïde qui a réussi à faire tous ces kilomètres.
Et puis que ce petit bout se soit accroché. Et puis,
Ah.
ouais, la naissance, comme la mort, ce sont des passages dans la vie qui sont hyper douloureux, qui sont difficiles. Et ouais, c'est dans les deux, c'est d'une fierté, hein, qu'on se rend pas compte en fait de ce que c'est d'être un être humain, mais c'est quand même il y a un côté magique. Et la
Ah,
naissance,
mais clairement.
l'arrivée sur Terre. C'est magique. Alors moi, par exemple, par contre, je suis fière de mon accouchement. J'ai quand même accouché. J'ai toute la préparation. J'étais toute seule parce que c'était un peu compliqué. Mais mon mec, pendant le même temps, son papa était malade. Il a perdu son papa il y a quelques mois. Et ça a été très douloureux pour lui. Alors lui, je suis aussi hyper fière de lui parce qu'il a dû jongler entre la naissance de sa fille, le départ de son papa, arriver. À gérer tout ça et avec beaucoup de, enfin, il est très fort. Je sais pas si j'en aurais fait autant, mais ouais, ça, tu vois, là, où je peux comprendre qu'on est fier de soi. Après, ouais, moi, la naissance de ma fille, justement, je suis partie toute seule à la maternité, j'ai fait tout le travail toute seule. Ça, c'était un peu difficile et j'étais hyper fière de moi et hyper fière d'elle, de notre équipe en fait, de ce qu'on a fait toutes les deux à ce moment-là. J'étais très fière. Ça,
Ouais, c'est un vrai
là,
truc.
j'étais fière.
Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui te croisent et qui par exemple, savent uniquement que tu es mannequin et te disent, mais t'en es là que grâce à de la chance?
Eh ben, j'ai envie de leur dire déjà que la chance n'existe pas, qu'on la provoque, que c'est un parcours, que pour moi, la chance n'existe pas. Je n'y crois pas. Je crois en plutôt. Je crois qu'on a tous un chemin vers lequel on va. Après, on le choisit, ce chemin. On le provoque, on crée des synchronicités, on crée des moments en fonction de ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a besoin de vivre et ce qu'on doit vivre aussi. Parce que ça, c'est différent. Et après, donc la chance, si on prend le mot chance. Quand ça arrive, bah déjà c'est que c'est pas une chance, c'est que c'est le moment quoi. Et c'est savoir aller
la saisir.
Oui, exactement, prendre cette chance, prendre ce moment. Quand c'est le bon moment, les choses arrivent. Il y a rien à faire, en fait. Et du coup, si tu es là, si tu es exactement à cet endroit, à ce moment-là, c'est quelque part, tu l'as mérité.
Et que mais après, je pense que le vrai enjeu, c'est de savoir saisir la chance. C'est qu'en fait, souvent, la chance se présente. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours le train continue. Donc, il y a toujours un wagon qu'on pourra voir passer et saisir. Mais en effet, je pense que c'est un vrai sujet, c'est de savoir saisir sa chance aussi.
Bien sûr, c'est ça, de savoir tout prendre. Mais là aussi, je crois que je l'avais lu quelque part. C'est quelqu'un qui, je crois que je l'ai lu, hein. Il me semble pas que ce soit quelqu'un qui en ait parlé, qui dans sa vie s'est dit qu'il allait toujours dire oui à tout. Et du coup, bah, il avait forcément beaucoup plus de chance que quelqu'un qui dit non.
Ouais.
Et savoir saisir la chance, c'est aussi prendre des risques. Donc, du coup, quelque part, c'est pas uniquement une question de chance, c'est aussi une question de courage. Il y a une question de volonté aussi. Et c'est se bouger, quoi. C'est d'y croire. Je pense que quand on y croit, quand on se donne tous les moyens pour, si jamais ça ne vient pas, c'est que c'était pas pour nous. Et quand ça vient, eh ben, il faut accepter, il faut foncer, il faut sauter, quoi. Dans le jeu. Ouais.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui?
De foncer, de jamais être trop sage et d'y croire. Et ça, moi, ma grand-mère me le répétait. Elle me disait, il faut y croire, et si tu y crois, ça va venir. Demande et tu auras. Et moi, je trouvais qu'elle était un peu farfelue, trop spirituelle. Et en fait, aujourd'hui, mais je pense que je suis encore pire qu'elle. Mais ouais, je pense que le conseil, c'est vraiment d'y croire, de pas avoir de limites, de pas avoir de barrières. Essayer en tout cas de tout faire pour qu'elles disparaissent, pour les enlever. Mais même si j'ai bien conscience que c'est pas facile. Et puis à tout moment, on a l'impression qu'on les enlève et elles peuvent se redresser. Donc c'est un travail de longue haleine, mais je pense que c'est le travail d'une vie. Et ce qui fait qu'on est fier de soi après.
C'est quoi tes prochains défis?
Alors, bah, j'en ai plein. déjà aussi, ça, un conseil, c'est c'est comme la liste que j'écris. C'est toujours se mettre des nouveaux défis parce que ça donne envie d'avancer et puis ça nous donne, en les écrivant, en y pensant, en les imaginant, ça nous donne la possibilité de les réaliser. Autrement, si on n'y pense pas, on n'en a pas et donc on ne fait rien, quoi. Ça, c'est... Mais donc, mes prochains défis personnels, j'adorerais pouvoir me tourner de plus près vers la comédie, vers le théâtre, de foncer, de continuer mon école de théâtre, peut-être de trouver un nouvel agent, de foncer, de continuer le mannequinat, d'arriver à élever ma fille et qu'elle ait le moins de limites et de barrières possibles dans sa tête, qu'elle soit plus libre possible, peut-être d'avoir un deuxième ou un troisième enfant, d'essayer de réussir aussi sentimentalement, d'être heureuse, d'accepter les moments difficiles, sentimentalement, et puis je trouve que c'est hyper beau, moi, l'histoire de mes parents, de voir ces deux personnes qui, 40 ans après, même si parfois ils s'agacent, mais qu'ils soient toujours ensemble et qu'ils s'aiment autant, je trouve ça magnifique. Donc ça, je trouve que c'est une très belle réussite aussi. Et puis, quand j'étais petite, je rêvais tellement de paillettes, de lumière, que je trouvais que la vie de mes parents était un peu naze. J'avais même dit un jour, alors je m'en veux aujourd'hui, mais non, je sais qu'ils s'en fichent, mais j'avais dit à papa que je trouvais que sa petite vie dans sa petite maison avec sa petite femme et ses petits enfants et son petit travail, c'était nul. Et que moi, j'avais envie d'autre chose. Et ben aujourd'hui, je rêve de ça. D'avoir une petite vie, un petit travail, des petits enfants, un petit mari. En fait, je trouve que d'être heureux, d'être bien entouré, c'est un défi. Donc ça, c'est un défi d'arriver à avoir une famille qui fonctionne, où ça roule. Et après, j'ai plein de défis professionnels. Peut-être d'ouvrir une galerie d'art. J'aimerais bien lancer aussi, peut-être aussi créer un truc qui soit lié à l'humanitaire aussi. Enfin, tu vois, j'ai tellement d'envie, c'est compliqué. Il faudrait plusieurs vies pour les réaliser. Et peut-être que je peux
faire. Ouais, bah c'est super. Hein. Il vaut mieux avoir plein d'envie qu'aucun rêve. Hein. C'est les rêves qui font avancer.
Oui. Après, il faut aussi avoir les pieds sur terre. Et c'est là où souvent mon entourage essaye de m'ancrer en me disant reviens sur terre et essaye de te concentrer plutôt que d'être trop dans les nuages.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Bah déjà, premièrement, merci à toi.
Merci.
Pour tout le travail que tu fais, pour tout. Enfin, je trouve que c'est. Si l'univers était rempli de personnes comme toi, le monde fonctionnerait. Enfin, ça serait magique. Tu te rends compte? Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu donnes aux autres à travers ton travail. Enfin, c'est. Je trouve ça top. Je trouve ça vraiment génial. Donc merci. Merci d'être là. Merci de faire ce que tu fais. Et ça, c'est top.
Merci. Salut.
Non, après, du coup, il ne peut pas avoir que des gens comme toi parce que sinon, ça serait trop simple et il faut aussi un équilibre. Comme on t'en parlait au tout début, le yin et le yang, c'est important d'avoir cet équilibre pour qu'on se tourne justement vers le bien et vers des belles choses et vers des ondes positives. Non, j'ai envie de dire merci aussi à ma famille, à mes parents, à mes sœurs, à toutes ces personnes magnifiques qui m'entourent, à mon copain, à ma fille d'être venue. Tous les soirs, je la remercie. Je lui dis merci d'être venue. Merci d'être venu, merci d'être là. Merci parce que c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau du ciel. D'ailleurs, tous les matins, j'ai l'impression que c'est Noël quand je vais la chercher dans son lit. Ouais, merci. Puis merci à tous ceux qui sont en haut de prendre soin de moi, de me diriger, de foncer. Et puis merci à moi aussi. Merci, franchement, je me remercie je remercie la petite fille qui est en moi de continuer à vivre et de me permettre aussi de briser un peu ces limites que j'ai en tant qu'adulte parfois. Et puis merci à l'univers. Merci à tout le monde, quoi. Non, ouais, je pense que c'est important de remercier tout le temps. D'être tout le temps dans le remerciement. Merci de se réveiller chaque matin. Merci aussi à tous les clients qui me font travailler, à toutes les personnes qui encore une fois qui m'a proposé cette interview. Tu vois, c'est cool.
Merci beaucoup Camille pour ce magnifique témoignage et puis on a hâte de savoir la suite. On te souhaite évidemment tout le meilleur.
Ben, merci beaucoup. À toi aussi. Ce qui paraît qu'il y aura une suite cool aussi.
Ouais, 2020 va être une année chargée. C'est l'année de l'émancipation de pourquoi pas moi.
2021.
Oui, 2021, ouais. Pardon. J'ai encore un peu de mal. Hier, je faisais un chèque 2020. Non, j'ai pas encore passé la nouvelle année.
Ouais, moi, je suis bien contente d'avoir quitté 2020, mais bon.
Ouais. C'est une année. Ça a été une année. Après, on en parlait justement à Noël, parce que là, donc, on enregistre le 5 janvier. Moi, j'ai envie de retenir du positif quand même, tu vois, de cette année. Tu vois, ce qu'on se disait, c'est que ça a été la naissance de Pourquoi pas moi, ça a été la naissance de mon neveu, ça a été, j'ai envie de dire même la naissance de mon neveu avant de Pourquoi pas moi. Et puis, ça a été, enfin pour nous, ça a été le retour à Marseille, on a déménagé. Enfin, tu vois, ça a été l'année où finalement, on a profité de ces moments compliqués qu'on a vécu pour se poser les bonnes questions sur là où on avait envie de vivre. Et tous les matins, j'ouvre les volets et je me dis qu'on est au bon endroit. Donc,
ça, c'est une réussite.
Ouais, c'est ça.
Ouais, non, c'est sûr. Moi aussi, l'année 2020, j'en retiens la naissance de ma fille. Je retiens aussi le fait que j'ai quand même eu la chance de travailler et de pouvoir profiter des gens que j'aimais, alors même si le contexte était compliqué. Ouais. Par contre, je trouve que ça a été une année éprouvante, difficile et c'était une année tout en contradiction, mais peut-être qu'on avait besoin tous de vivre ça pour essayer de revenir à l'essentiel. Et une fois de plus, rien n'arrive par hasard. Donc
il faut. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est savoir se dire que. Alors moi, j'ai eu la chance de pas avoir eu de personnes qui ont été gravement touchées, à la fois financièrement et à la fois surtout sur la santé. Mais je me dis dans notre contexte à nous, où personne n'a eu vraiment de vraies énormes galères, c'est de se dire comment on fait pour capitaliser sur ce qu'on a vécu et le transformer en du meilleur, en fait.
Moi, j'ai perdu ma grand-mère, donc la maman de mon papa, pendant la première vague, qui était très âgée. Et son départ a été très difficile. Mais en fait... de tout ça, pendant l'enterrement, on était chiffre, on était hyper restreint, mais c'était quand même beau. C'était quand même beau. Et puis quelque part, elle a tiré sa révérence du, ça a été rapide, ça a été très dur, Mais il y en a quelque chose de beau qui est ressorti de tout ça. Et de partir à ce moment-là, bah finalement, elle a peut-être moins souffert que si elle était gravement malade. Ça a été plus rapide. Même si pour ceux qui restent, ça a été très compliqué, quoi, à gérer.
Ouais.
Ça.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
C'est comme ça. C'est comme
ça. Ouais. Et elle est à côté de toi, elle aussi.
Oui, bah c'est sûr. Ouais. En tout cas, merci pour tout.
Merci à toi et puis à très très vite.
Ouais, à bientôt.
Merci.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. C'est amusant parce qu'ensuite j'ai découvert que Camille avait été la mannequin pour faire des pubs pour la magnifique marque Loose Collection dont j'ai interviewé la fondatrice Claire. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?